Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Procès Béa et Bazana, le policier Jacques Mougabo a créé la surprise et le moi à l'audience publique d'hier mercredi devant la haute cour militaire à la prison militaire d'Endolo. Il a avoué, expliqué, détail en appui, comment ils ont tué les deux défenseurs des droits de l'homme. La motion de défiance contre le ministre des Pétentiques rejetée au cours de la plénière agitée hier à l'Assemblée nationale, où les députés ont ensuite continué avec la réplique du ministre Kibasa, mais sans l'opposition FCC qui l'a boycotté en protestant contre la violation du règlement intérieur dans la procédure de rejet de sa motion. Enfin, nous recevrons dans cette édition du journal Fidèle Ikinda, député national membre de l'opposition FCC. Il revient sur le rejet de la motion de défiance initiée par l'opposition contre le ministre PTNTIC sur la question de la taxe RAM. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Un des prévenus au procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana avoue avoir tué les deux défenseurs des droits de l'homme. À l'audience publique d'hier mercredi devant la haute cour militaire à la prison militaire d'Endolo, le policier Jacques Mougabo a créé une surprise et un émoi auprès des juges et de l'assistance. Il a détaillé la mise à mort de Chebeya et Bazana, alors que Christian Ngoï Kenga Kenga a refusé de comparaître. Jeff Ngoï.
Dans les moindres détails, le policier Jacques Mougabo raconte et décrit les circonstances du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana le 1er juin 2010 dans les installations de l'inspection générale de la police nationale congolaise. J'ai participé à leur mise à mort. Après les avoir tués, nous avions acheminé le corps inerte de Floribert Chebeya à bord de sa voiture que nous avions abandonnée au bord de la route vers Mitendi. Et le corps de Bazana, nous l'avions enterré dans la ferme privée du général Djadjidja. Tout se faisait sur ordre de Christian Ngoï Kenga Kenga, de qui je répondais au sein du bataillon Simba sous l'autorité de John Numbi et Daniel Mukalai. Après le crime, nous sommes allés à Rigini, à la résidence de Mukalai, pour fêter et chacun des meurtriers a été récompensé de $50. C'est un aveu d'assassinat fait par Mugabo. Pendant ce temps, Kenga Kenga est resté dans sa cellule refusant de comparaître. C'est son droit d'opter pour le silence, mais on va en tirer des conséquences, déclarent les parties civiles. La haute cour signe un procès verbal de constat de ce refus. Et la VSV exige ainsi la comparution de toutes les personnes citées à la prochaine audience.
Autre nouvelle, une délégation de l'AMUKA, plateforme de l'opposition, a été reçue au Parlement européen hier mercredi. Selon Albert Mukulubundu, chargé des relations extérieures de l'AMUKA, qui livre l'information, les échanges avec la Commission des droits de l'homme ont tourné autour des sanctions que cette plateforme sollicite pour les violations des droits humains en rapport avec les répressions de ces marches pacifiques. La dépolitisation du bureau de la CENI, le respect du délai constitutionnel pour l'organisation des futures élections de 2023 et l'impartialité de la Cour constitutionnelle sont des sujets débattus lors de cette séance de travail. On écoute Albert Mukulubundu, joint par Alain Irung.
Notre délégation a été reçue au siège de l'Union européenne. La séance de travail a tourné autour de questions liées aux droits humains en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les manifestations pacifiques de la Mouka ont été pour la plupart réprimées. Malheureusement, parmi nous, il y a des blessés graves et il y a quelques mois, nous avons perdu Madame Futila. Et nos démarches visant à saisir les instances judiciaires n'ont pas abouti et lors de notre séance de travail avec les responsables de la Commission des droits humains, nous leur avons demandé de rappeler à la République démocratique du Congo ses engagements, parmi lesquels le respect des droits humains. Et compte tenu du fait que le régime Tshisekedi s'inscrit dans la continuité du régime Kabila, nous avons demandé des sanctions ciblées pour les responsables de ces répressions.
Et puis, la paix ne se construit pas facilement, on ne la ramasse pas quelque part, elle ne tombe pas du ciel. Elle doit être bâtie, nourrie par tout un chacun. Cet appel, à la fois interpellateur, est du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé de la protection et des opérations, Kassim Diagne. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire de l'ONU ce mercredi, ici à Kinshasa, consacrée essentiellement sur la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Denise Lukesu.
Pour le numéro 2 de la mission onusienne, ce sont les communautés elles-mêmes, les Congolais eux-mêmes qui doivent faire ce travail de bâtir la paix, trouver les solutions pour rétablir la confiance entre les communautés et la coexistence pacifique. Fin de citation. Monsieur Diane a ajouté que les bonnes volontés auront tous les soutiens de la mission. Il a par ailleurs condamné la diffusion des appels à la haine qui n'a d'autres effets que d'enraciner encore davantage la violence. On l'écoute dans cet extrait.
Il est intolérable et inacceptable que les discours de haine continue, surtout de la part de personnalités politiques ou personnalités civiles. Les discours de haine ne mènent à rien et mènent à la division. Et sachez que les discours de haine sont condamnables au plan du droit international. Et je pense que le gouvernement est très clair dessus. Des dispositions seront prises contre les personnes qui continuent de propager ces discours de haine. Il faut que ça s'arrête.
Les conflits ne peuvent pas être résolus par la force uniquement. Une paix durable ne peut pas être imposée par les fusils et se gagne aussi en tendant la main aux bonnes volontés, a dit M. Kassim Diane. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Et puis ce matin, Radio Kapi poursuit sa série de reportages sur le plan de transition devant conduire au retrait responsable, progressif et durable de la MONUSCO de la RDC. Dans cette édition, Jean-Pierre Lali Coco nous propose la suite des 18 jalons qui présentent globalement les conditions minimales de retrait de la mission onusienne de la République démocratique du Congo. Suivez.
Les jalons 8 parlent de la participation des femmes et des jeunes LUDER, une participation qui se veut significative dans la prise des décisions relatives à la protection des civils, à la stabilisation et à la consolidation de la paix. Les jalons 9, 10 et 11 de la transition s'apesantissent sur le rôle des institutions de l'État, particulièrement sur leur capacité accrue à protéger les civils et leurs droits en rétablissant l'autorité de l'État, y compris la protection des civils et de leurs droits en renforçant l'état de droit pour lutter contre l'impunité et la corruption conformément aux lois nationales et aux obligations internationales en matière de droits humains et enfin sur la présence effective et fonctionnelle de ces institutions pour garantir une offre minimum de services publics à la population. Le 12e jalon vise l'amélioration de la demande de justice, l'accès à la justice et les besoins de protection juridique de la population, en particulier les groupes vulnérables et à risque, grâce à la mise en place des mécanismes juridiques et opérationnels adéquats.
Le 13e jalon, lui, parle de l'application des mesures disciplinaires et judiciaires conformément à la loi à l'encontre des responsables d'actes de corruption ou entretenant des relations commerciales avec des groupes armés. Les 5 derniers jalons seront abordés demain, vendredi. La motion de défiance introduite mardi par le FCC contre le ministre des Pétentiques a été rejetée hier mercredi au cours d'une plénière agitée à l'Assemblée nationale. La plénière a donc poursuivi l'examen de la question orale avec débat par l'audition de la réplique du ministre Augustin Kibasa et la conclusion de l'auteur de la question, Claude Missaré, qui plaide pour la suppression de la taxe RAM. Cette plénière s'est déroulée en l'absence des députés de l'opposition FCC qui l'ont boycotté pour protester contre la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans la procédure appliquée pour rejeter leur motion de défiance. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Dénonçant la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire a quitté la salle. Félix Kabangenoumbi.
Il y a eu une grande réunion de l'Union sacrée où ils ont pris des stratégies à l'encontre des intérêts de la population. Nous, nous devons défendre les intérêts de la population. Le président a présenté deux points à l'ordre du jour que nous avons tous voté. De quel droit peut-il insérer un autre point qui n'a rien à voir?
Malgré l'absence des députés du FCC, le ministre de Pétentique a tenté de rencontrer les préoccupations des députés. Augustin Kibasa.
J'ai démontré que le RAM a été un fondement juridique clair découlant de la loi. En outre, sa gestion relève de la compétence exclusive de l'ARPTC et non du ministre des PTN. À la demande de l'option de suppression du RAM, je me suis remis de manière officielle à la décision du gouvernement.
N'étant pas convaincu des réponses du ministre, l'auteur de la question plaide pour la suppression de la taxe RAM. Claude Missaré.
Je recommande une commission d'enquête parlementaire, établir les responsabilités des auteurs impliqués dans cette escroquerie étatique, la restitution des crédits prélevés illégalement et la suppression de votre taxe RAM.
Il reste donc à savoir si le gouvernement supprimera ou pas la taxe RAM.
Et on parle santé dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. La vaccination contre Ebola a commencé ce mercredi dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, où un cas a été confirmé le 8 octobre dernier, annonce l'OMS à travers un communiqué. Les personnes à risque, parmi lesquelles les contacts du cas confirmé et les premiers intervenants seront vaccinés dans le cadre d'une action entreprise par les autorités sanitaires pour endiguer la propagation du virus. Pour rappel, le cas confirmé est un garçon de 3 ans décédé le 6 octobre dernier, dans un centre de santé local. Il vivait au sein de la même communauté où 3 membres d'une famille sont décédés en septembre après avoir ressenti des symptômes analogues à ceux d'Ebola. D'autres détails avec vous, Alain Hirung.
Selon le communiqué de l'OMS, environ 1000 doses du vaccin anti-Ebola et d'autres fournitures médicales ont été livrées de la capitale Kinshasa à la ville de Goma dans le Nord Kivu et près de 200 doses ont été envoyées jusqu'à Beni près de l'aire de santé de Butsili où le cas confirmé a été détecté. Les vaccinateurs ont recours à la vaccination en ceinture qui consiste à vacciner les contacts et les contacts des contacts. La République démocratique du Congo dispose de plus de 12 000 doses de vaccin à Kinshasa qui peuvent être déployés si nécessaire, affirme la même source. Enfin, toujours selon le communiqué de l'OMS, en plus d'organiser les activités de vaccination, les équipes de riposte d'urgence travaillent sans relâche pour suivre les contacts, décontaminer les lieux infectés et renforcer la surveillance et le dépistage. Plus de 170 contacts ont déjà été identifiés et les équipes contrôlent leur état de santé. Afin de soutenir les efforts de riposte des autorités nationales, l'OMS a mis à disposition 200 000 dollars de son fonds de réserve pour les situations d'urgence, indique le communiqué.
Alors, pour limiter la contamination de l'épidémie de la maladie à virus Ebola à Beni et les villages environnants, l'UNICEF déploie des fournitures vitales et des équipements pour l'eau et l'assainissement, la prévention et le contrôle des infections et pour la nutrition à Beni dans la province du Nord Kivu, indique un communiqué de cette agence onusienne. Jean-Pierre Lali Coco pour les détails.
Selon ces communiqués, ces fournitures et équipements seront déployés dans les centres de santé et communautés. L'arrivée de ces fournitures est une première étape et clé dans la réponse à cette dernière résurgence d'Ebola, car elles permettront de ralentir la propagation du virus, a déclaré Médard Onobaiso, chef du bureau local de l'UNICEF à Beni. Outre ces fournitures et équipements, l'UNICEF a envoyé du personnel supplémentaire à Beni pour travailler avec les autorités sanitaires locales et les communautés. Un réseau de 13 cellules d'animation communautaire accompagne les autorités sanitaires dans leurs efforts de suivi pour identifier les personnes ayant été en contact avec les cas confirmés ou probables d'Ebola. L'UNICEF a déjà mobilisé 550 000 dollars américains de ses propres fonds pour lancer les différentes interventions dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et de la nutrition, de la communication pour le développement et de la protection, y compris des mesures visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels dans le cadre de l'intervention.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, direction Bandundu. Les poissons et autres espèces aquatiques se sont enfouis de la rivière Kasai dans la province du Kwilu suite à la destruction de leur biotope par des substances toxiques dernièrement déversées sur cette rivière depuis l'Angola par une industrie. C'est ce qu'a déclaré à la presse le service du système d'information géographique du ministère provincial de l'Environnement. Le chef du bureau Malunga Kubali invite le gouvernement central à prendre des dispositions pour assister la population victime et exige la réparation du préjudice causé par cette pollution. On l'écoute au micro de Irène Mboum.
Selon les rapports de cette population riveraine et de nos agents qui sont sur le terrain, les poissons se sont déplacés en quittant leur biotope, c'est-à-dire leur milieu de vie, en fouillant la pollution qui est liée dans la rivière. Ce sont les êtres aquatiques qui vivent dans ce tronçon où la pollution est liée. Bon, ils se sont déplacés suite à cette catastrophe qui est liée de la pollution de la rivière Kasai, la pollution de nature industrielle, puisqu'il y a des substances toxiques qui sont mélangées de l'eau. Alors aujourd'hui, les poissons se sont diminués à cette partie. Ils ont fui cette pollution. Nous subissons seulement les faits. Alors, il faut une réparation. Il faut un dédommagement de la part de l'Angola. Parce que c'est une industrie angolaise qui a provoqué cette pollution.
Actualité internationale. En Algérie, le tribunal d'Alger a condamné mardi 12 octobre Saïd Bouteflika, frère cadet et conseiller influent de l'ancien président, à 2 ans de prison ferme pour avoir entravé le bon déroulement de la justice. Plusieurs autres responsables politiques et de puissants hommes d'affaires ont été arrêtés après la chute du régime d'Abdelaziz Bouteflika début avril 2019 sous la pression des manifestations du Irak et de l'armée. Ils ont été placés en détention préventive ou condamnés notamment pour des faits de corruption. Et puis en Norvège, un homme armé d'un arc et des flèches a tué plusieurs personnes et en a blessé plusieurs autres mercredi à Kongsberg, dans le sud-est de la Norvège, a annoncé la police norvégienne qui a arrêté un suspect.
L'invité.
L'opposition parlementaire, le Front commun pour le Congo, proteste et dénonce, selon elle, la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par le bureau. Celui-ci a approuvé le rejet de sa motion de défiance contre le ministre des Pétentiques. Cette motion a été rejetée à la suite d'une motion incidentielle, source d'une altercation entre le FCC et l'Union sacrée au cours de la plénière d'hier mercredi. Pour en parler, Radio Okapi reçoit ce matin les députés nationaux du FCC, Fidèle Likinda, Leli Dikela, est interrogé par Michel Kifou.
Fidèle Likinda, bonjour.
Bonjour.
Au cours de la plénière de ce mercredi, une plénière très mouvementée, vous vous êtes décidé de claquer la porte encore une fois de plus. Pourquoi cette politique d'abandonner les séances plénières et permettre à l'Union sacrée de décider sans vous?
Nous ne sortons pas pour sortir. Nous sortons pour ne pas être salis et pour ne pas partager la responsabilité de la médiocrité avec les amis de l'autre côté. Nous sommes sortis pourquoi? Parce que le président, par la voix de son rapporteur, nous avait envoyé l'ordre du jour qui était très bien connu, la réponse du ministre des Pétentiques. Et puis, la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par notre estimé collègue Emery Okundji. L'ordre du jour a été approuvé par l'Assemblée plénière. Mais à notre grand étonnement, le président de lui-même, sans demander l'avis de la plénière, et ça ne s'est fait même pas, il a inséré la question prévue concernant la motion de défiance. Et c'est pour cette raison que nous avons décrié cette tricherie parlementaire, parce que ça c'est une tricherie orchestrée par le bureau et très présentement par l'honorable président Bosso. Et nous ne pouvons pas cautionner les mains. C'est pour cette raison que nous nous sommes sortis.
De toutes les façons, les députés de l'Union sacrée pensent qu'on ne pouvait pas initier une motion de défiance sur une matière qui est déjà sous examen en question orale avec débat.
Je crois que je dois éclairer l'opinion. C'est des procédures différentes. La motion de défiance est l'acte par lequel l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement. Et ça, conformément à l'article 91, 138, 146 et 147 de la Constitution de notre pays. La motion de défiance dans notre règlement intérieur est consignée dans le titre 5. Je dis bien dans le titre 5. C'est une mise en cause. Tandis que la question oral avec débat, c'est un moyen d'information que l'Assemblée exerce sur le gouvernement, sur les entreprises publiques et établissements publics. C'est un moyen d'information. Et là, nous sommes dans l'article 168 de notre règlement intérieur. C'est des procédures tout à fait différentes. Ça n'a pas de rapport. Notre motion de défiance n'avait pas une connexion directe avec la question orale, avec débat de l'autre. Parce que la population congolaise en souffre. Parce qu'il y a la clameur publique populaire de cette escroquerie financière au sommet de l'État. C'est ainsi que nous avons initié cette motion de défiance. Puis ils ont mélangé le tout pour tromper l'opinion comme ils ont l'habitude de le faire. Et d'ailleurs, eux ne respectent même pas le texte.
Maintenant que vous êtes sorti, l'Assemblée plénière, constituée essentiellement des députés de l'Union sacrée, a voté contre votre motion de défiance. Donc, elle a été rejetée. Qu'est-ce que vous comptez maintenant faire?
Pour nous, on considère que la motion de défiance n'est pas traitée. L'ordre du jour était connu. C'est vraiment illégal. En plus, dans notre règlement, gouvernement intérieur. Je crois qu'une motion de défiance ou une motion de censure ne peut pas être arrêtée par une motion incidentielle. Jamais ça ne peut pas être arrêté.
En même temps, la plénière reste souveraine, elle a déjà décidé. Vous, FCC, qu'est-ce que vous allez faire pour exercer votre pouvoir de contrôle parlementaire?
Nous sommes sereins. Ce n'est pas parce qu'ils ont cette majorité non authentique fabriquée au cours de la législature, c'est une majorité non authentique, nous ne pouvons pas nous reculer. Nous allons mener les actions dans les jours qui viennent à travers la République. Je suis tout à fait d'accord. J'ai suivi notre frère Jonas Tchombela qui a dit qu'on peut tromper les députés. On peut minimiser les députés, mais on ne trompera pas l'ensemble de la population congolaise. Et donc, dans les jours qui viennent, notre famille politique, sur cette question des rames, va mener des actions à travers toute la République. Et je crois qu'on va vous annoncer officiellement.
Fidèle Ekinda, je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.